Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ah, rugbystiquement, c'est une légende, oui, cette demi-finale de 99 contre les All Blacks, où je crois qu'il a ébloui la planète.
Le rugby français perd une légende, un mythe. Christophe Dominici avait 48 ans, grande figure du 15 de France. Son petit gabarit ne l'empêchait pas de défier les plus grands.
Quel cap pour Noël, quels allègements pour le confinement. On sera fixé d'ici une heure avec l'intervention donc d'Emmanuel Macron.
Dans la course au vaccin, l'Union européenne signe un contrat avec le laboratoire Moderna.
L'Assemblée nationale vient d'adopter à une large majorité la proposition de loi sur la sécurité globale, alors qu'une polémique monte après l'intervention policière musclée hier soir à Paris pour déloger des migrants.
Le PSG et Rennes jouent ce soir leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens face à Leipzig à 21h et Rennes actuellement contre Chelsea depuis quelques minutes, toujours 0-0.
Un coup d'œil au temps avec la tendance météo. Anissa nous a rejoint. Un peu plus de douceur demain, ma chère
oui,
Anissa.
Les températures vont se radoucir dans l'après-midi, en particulier à l'est de la France où il a fait bien frais ces derniers jours. Demain matin, nous aurons toujours des gelées, attention, et puis dans le ciel, après les nuages matinaux, le soleil arrive, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
D'abord donc le choc pour les amateurs de rugby qui ont appris cet après-midi la disparition de l'ancien ailier et légende du 15 de France, Christophe Dominici.
Il avait 48 ans, Domi, un génie qui du haut de ses 1m72 et 82 kg était capable de contredire les logiques physiques et de renverser des montagnes.
Oui, ses exploits, il les a accomplis sous le maillot du 15 de France qu'il a porté à 67 reprises, mais aussi avec le maillot de Toulon dont il était originaire et surtout du Stade français dont il est indissociable des années Max Guasini. 5 titres de champion de France à la clé.
Serge Simon était l'un de ses coéquipiers justement au Stade français, l'un de ses amis aussi.
Moi j'ai envie de garder un sourire. C'était un garçon, oui, c'était un garçon très, très sensible, très, très fragile et qui certainement, comme beaucoup d'entre nous, masquait sa fragilité par une certaine exubérance. Voilà, oui, il y avait une fragilité chez Domi. Ah, rugbystiquement, c'est une légende, oui. Quand on l'a vu arriver au Stade français, c'était compliqué. Mais on a vu de suite qu'il avait un talent extraordinaire, d'avoir une pointe de vitesse, un sens du rugby, une vision du jeu, un crochet incroyable. Et c'était le début d'une histoire extraordinaire pour lui, qui l'a mené à cette demi-finale de 99 contre les All Blacks, où je crois qu'il a ébloui la planète.
Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby, ancien coéquipier de Christophe Dominici, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. Le corps de Christophe Dominici a été retrouvé cet après-midi dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Un témoin dit l'avoir vu chuter d'une dizaine de mètres depuis le toit d'un bâtiment désaffecté. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour rechercher les causes de sa mort.
Et un peu moins d'une heure maintenant avant l'intervention d'Emmanuel Macron, la sixième depuis le 12 mars, c'est le début de la crise sanitaire.
Intervention que nous suivrons bien sûr en direct sur Europe 1. Le chef de l'État devrait annoncer des ajustements, mais pas de levée du confinement. Ce devrait être une valse en trois temps.
Avec d'abord la réouverture des commerces, sans doute dès samedi, puis avant Noël, si tout va bien, des facilités de déplacement. Et enfin, pas avant janvier, la réouverture des bars et des restaurants.
C'est aujourd'hui que débute la 36e campagne d'hiver des Restos du Cœur, en pleine crise sanitaire et économique. L'appel lancé par Coluche est plus que jamais d'actualité.
La plupart des nouveaux bénéficiaires sont des victimes directes des conséquences du Covid, comme vous l'avez constaté, Stéphane Place, dans un centre des Restos du Cœur près de Bordeaux.
Oui, et déjà une augmentation de plus de 7% du nombre de repas servis depuis le début de la crise sanitaire en Gironde. Clairement, les Restos du Cœur s'attendent à un hiver difficile. 1500 bénévoles mobilisés pour accueillir les familles monoparentales, les personnes isolées, 40% des demandes, mais aussi de nouveaux bénéficiaires, des auto-entrepreneurs, des intérimaires par exemple. Et puis, Muriel Kilikini, la présidente départementale des Restos, le voit déjà, les jeunes qui basculent dans la pauvreté.
C'est les étudiants qui ont perdu leur petit job. Voilà un jeune qui a dit, mais là, il me faut quelque chose. Maintenant, c'est ces situations-là qui sont vraiment très très déstabilisantes. On a pris un petit peu exemple sur ce qui s'était passé en 2008, où il y a eu une augmentation de plus de 20%. On peut craindre ça.
Pour la première fois ce matin, Eric, frappé de plein fouet par la crise, a poussé la porte des Restos du Cœur ici à Bruges.
Ça ne m'était pas arrivé, c'est une situation assez difficile à vivre. Moi je suis cuisinier dans la restauration, je suis au chômage total. On a une famille avec deux enfants, un reconfinement une deuxième fois. Là on attend une réponse pour la rouverture des restaurants. On attend avec impatience ce que va dire le président ce soir.
Un afflux de bénéficiaires plus important et dans les 42 Restos du Cœur que compte la Gironde, tout un protocole sanitaire, gel hydroalcoolique, masque, pour aider les plus démunis dans ce contexte complètement inédit.
Le reportage de Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Et c'est donc à tous ces Français qu'Emmanuel Macron va de nouveau s'adresser ce soir. Ceux qui souffrent, hein, certains plus que d'autres, on vient de l'entendre, des conséquences du confinement.
Oui, restez avec nous, édition spéciale donc jusqu'à 20h. On suit ensemble l'allocution du chef de l'État et puis on débrief avec nos invités jusqu'à 20h50.
Et alors que le monde entier attend de pouvoir enfin lancer des campagnes de vaccination, l'Union européenne annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec le laboratoire américain Moderna, l'un des plus avancés dans la conception justement d'un vaccin contre le Covid.
Oui, contrat qui porte sur 160 millions de doses. On vous retrouve en direct de Bruxelles, Isabelle Horry. Une partie de ces vaccins est destinée à la France.
Et oui, car l'Union européenne négocie au nom de tous ses membres. Soyons clairs, hein, quand la France précommande un vaccin, ça se fait dans le cadre des contrats conclus entre les labos et Bruxelles. Alors pourquoi passer par l'Europe ? Eh bien parce que ça évite une concurrence entre pays voisins et aussi parce que un marché unique de 450 millions de personnes, c'est plus important que 27 marchés séparés. Ensemble, les Européens ont une position de force. Les prix des vaccins sont secrets, mais selon l'agence Reuters, les négociateurs européens auraient, par exemple, obtenu un meilleur tarif que les États-Unis pour le vaccin Pfizer. À ce jour, presque 2 milliards de doses au total ont été précommandées par l'Europe. Écoutez la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Une fois que le vaccin se sera avéré sûr et efficace, chaque État membre le recevra au même moment, au prorata de sa population et aux mêmes conditions. Nous sommes en train de mettre en place l'un des portefeuilles de vaccins les plus complets au monde.
Car Bruxelles a déjà conclu 6 contrats, Moderna est le dernier en date, mais c'est déjà fait avec Pfizer, AstraZeneca ou Sanofi. Au prorata de sa population, la France peut réclamer 15% des doses préachetées. Ça fait potentiellement 300 millions de doses.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé à l'IGPN, la police des polices, de remettre ses conclusions sous 48 heures concernant les violences observées hier soir lors de l'évacuation par les forces de l'ordre d'un campement de migrants place de la République à Paris.
MSF annonce qu'il va porter plainte pour mise en danger d'autrui. Beaucoup à gauche dénoncent une dérive liberticide parmi les scènes qui ont choqué notamment ce policier qui fait un croche-pied à un migrant. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulé cet après-midi à l'Assemblée nationale le vote de la proposition de loi sur la sécurité globale qui a fait, on le sait, couler beaucoup d'encre hein, ces derniers jours pour finalement être adoptée très largement, Adrien Beck.
Oui, pas de surprise, même si une partie de la majorité a voté contre ou s'est abstenu, 40 députés marcheurs, 23 au Modem. On est loin des records. Une loi pour l'heure imparfaite pour le député Sacha Houlier qui s'est abstenu.
Sur le continuum de sécurité, ce texte avait de bonnes mesures. Sur le volet vidéo ou sur la deuxième partie de ce texte, il y avait des dispositions qui étaient critiquables, contestables. Sur le port d'armes dans l'établissement recevant du public, les crédits de réduction de peine et naturellement une rédaction que nous sommes certains à contester sur l'article 24, mais qui doit maintenant faire l'objet de la navette parlementaire.
En clair, la majorité compte s'appuyer sur le Sénat pour réécrire les articles litigieux. Il y aura aussi saisine du Conseil constitutionnel sur l'article 24, celui qui interdit de filmer des policiers. Jean Castex l'a annoncé cet après-midi. Aussi bien, on sera censuré et donc débarrassé, dit un cadre macroniste qui a pourtant voté pour. Preuve que ce résultat masque mal les fractures qui se sont réactivées dans la majorité avec ce texte. Une majorité gênée, notamment par les déclaration de Gérald Darmanin et qui espère que la suite du parcours de cette loi ne tournera pas au feuilleton.
Adrien Beck à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
19h08, vous restez avec nous à suivre dans votre journal. C'est parti pour Rennes face à Chelsea en Ligue des Champions et pour l'instant toujours aucun but.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite de votre journal 19h10 avec Isabelle Millet et on suit donc ce soir en direct sur Europe 1, le foot et la Ligue des Champions.
Et on sera dans quelques minutes au Rosenpark avec Simon Rubin qui suit le match entre Rennes et Chelsea qui vient de débuter, enfin 15 minutes de jeu déjà, pour l'instant toujours 0-0, grande soirée foot sur Europe 1 à 21h, on le rappelle, c'est le PSG qui sera sur le terrain face à Leipzig.
À l'étranger, on part aux États-Unis maintenant où les choses, ça y est, enfin commencent à se mettre en place.
Oui, tandis que Joe Biden nomme son équipe, Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas la victoire de son adversaire, demande quand même à l'administration des services généraux de lancer officiellement la transition.
Cette visite à présent qui fait couler beaucoup d'encre, celle du premier ministre israélien en Arabie Saoudite.
Benjamin Netanyahou a rencontré le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman, et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
C'est historique et c'est loin d'être anecdotique.
Ah bah c'est même un véritable renversement stratégique de la part de l'Arabie saoudite, ou en tout cas de la part de son prince héritier, le bouillonnant Mohamed Ben Salman, plus connu sous ses initiales MBS, capable du meilleur, comme par exemple accorder aux femmes une ébauche de droit de vote ou l'autorisation de conduire une voiture sans être obligatoirement accompagné d'un homme, mais également capable du pire, comme ordonner aux sbires de ses services secrets d'assassiner un opposant, Jamal Khashoggi, dans les locaux de son consulat en Turquie, puis de le faire découper en morceaux et jeter dans un puits. Alors, le rêve, en fait, de MBS, c'est de transformer son royaume en une puissance régionale capable de faire pièce à l'Iran, qui est à la fois son voisin et son ennemi juré. Et pour cela, il est prêt à payer n'importe quel prix, et nouer dans ce cadre-là une alliance de revers avec Israël est une option tout à fait pragmatique et parfaitement acceptable par le jeune prince, d'autant qu'au-delà de l'apport militaire qui sera loin d'être négligeable, l'État hébreu pourrait devenir à terme un partenaire économique et technologique de tout premier ordre pour moderniser le royaume.
Mais MBS, Didier, n'est pas encore totalement aux manettes.
Et voilà, et c'est ce qui explique la communication un peu embarrassée du palais, qui a nié la rencontre lorsqu'elle a été rendue publique hier par la presse israélienne, parce que nominalement, c'était évidemment le roi Salman, le père de MBS, qui reste le monarque régnant, gardien des lieux saints, et il ne veut pas entrer dans l'histoire comme le roi qui aura vendu Jérusalem et trahi le plan de paix arabe élaboré par les Saoudiens et qui conditionne normalement la reconnaissance d'Israël à la création d'un État palestinien. MBS, lui, ce qui l'inquiète, c'est le départ de Donald Trump, son plus fervent soutien, et l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, qui s'est toujours déclaré horrifié par l'assassinat de Jamal Khashoggi. Et donc, un rapprochement acté avec Israël avant l'intronisation du nouveau président, pour MBS, c'est une question de survie politique, car il espère ainsi d'abord s'attirer les bonnes grâces du Congrès américain, mais surtout cimenter définitivement cette alliance anti-iranienne qu'avait voulu Donald Trump, avec à ce stade aux côtés d'Israël et de l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et maintenant, Julien, comme premier, le foot, direction le Rosenpark, Rennes-Chelsea, quatrième journée de Ligue des Champions. On vous retrouve en direct, Simon Rubin. Les Bretons qui sont dans l'obligation d'obtenir un bon résultat face aux Blues hein, pour espérer poursuivre leur aventure européenne. Ça donne quoi, Simon? Le match a débuté il y a quoi, 17 minutes environ?
Exactement, 17 minutes et 30 secondes très précisément, 0-0 pour le moment entre Rennes et Chelsea. Ce sont peu ou prou les mêmes équipes hein, qui se font face que lors du match aller. On rappelle que Chelsea à l'aller avait gagné 3-0 face à cette équipe rennaise, qui est en train petit à petit de s'installer dans ce match, qui est en train d'oser davantage. Il y a eu une grosse occasion pour Chelsea en tout début de rencontre. Timo Werner, le buteur allemand, seul face au but, qui a manqué le cadre avec sa frappe qui est passée au-dessus. Et puis il y a quelques instants, Rennes qui a un petit peu répondu avec à la suite d'un corner un ballon fuyant qui a traversé dans la largeur toute la surface de réparation sans que personne puisse finalement le toucher. On en reste pour l'instant à 0-0 et vous avez raison, Rennes doit gagner, d'autant que ce soir, en ce moment même, Séville mène au score de son côté. Séville qui est un autre rival hein, du Stade Rennais dans ce groupe de Ligue des Champions. Et là maintenant, eh bien, les Rennais sont vraiment dans l'obligation de gagner, au moins faire un petit match nul, mais ça serait quand même très compliqué. Pour l'instant, 0-0 et les Rennais, petit à petit, essaient de s'installer et de se porter à la hauteur de l'événement. Mais ce ne sera pas simple. 0-0, 18e minute de jeu.
Allez, tous derrière le Stade Rennais. Merci Simon Rubin en direct. Et à 21h, on sera tous derrière le PSG hein, qui joue contre Leipzig. 21h, direct et intégralité jusqu'à 23h30.
Voilà, grande soirée sur Europe. L'allocution du chef de l'État, le débrief sur les annonces. Et puis, un peu de détente avec la soirée foot derrière le PSG. Merci Isabelle, à demain.